Tout d'abord, deux passages. Non pas en introduction, nous allons voir trois passages en introduction au sujet qui est devant nous, mais deux passages en prologue, oserais-je dire. Tout d'abord, dans le psaume 51 et dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Psaume 51, verset 17. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Dans le livre de Néhémie au chapitre 8, à la fin du verset 9, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Néhémie leur dit, allez, mangez de ce qui est gras et buvez de ce qui est doux. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur, et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. C'est un prologue. Pour dire que c'est certain que nous ne nous humilierons jamais assez, et l'Éternel regarde à un esprit contrit, brisé, humilié devant lui. Et individuellement ou en assemblée, nous faisons bien de le faire, mais pas trop, pas trop. Et nous avons les paroles de Néhémie qui sont là devant nous. Ne vous affligez pas outre mesure, la joie de l'Éternel est votre force. Et ce qui est devant nous, c'est justement ce qui cause, ce qui est à la source de notre joie et de notre liberté. Il ne faudrait pas qu'à force de s'humilier, à force de s'auto-flageller, on perde quoi que ce soit de cette joie, de cette liberté que confère notre position en Christ. Alors je lirai en introduction trois passages. Tout d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 15, verset 22. Nous ne pouvons pas lire toute la parabole du fils prodigue, comme nous l'appelons couramment, mais dans un pays voisin, et je préfère cette appellation, on l'appelle la parabole du père admirable. Et c'est vrai que le père est admirable. C'est une image de notre père. Et voilà ce père qui voit son fils arriver, repentant, et qui dit, verset 22, le père dit à ses esclaves, apportez dehors la plus belle robe, et l'en revêtez. Quelle est cette plus belle robe? C'est la justice dont nous sommes revêtus, mais de manière plus générale, c'est notre position en Christ, telle que Dieu nous voit, selon l'œuvre de Christ et ses conséquences en grâce pour nous. Voilà le sujet. Notre position en Christ et ce qui en découle pour nous, en joie et en liberté. Et justement, nous avons perdu quelque chose de cette joie. Quand Ésaïe le prophète dit d'aller puiser avec joie de l'eau aux fontaines du salut, chers frères et sœurs, est-ce que nous savons encore le goût de cette eau? Est-ce que nous aimons à puiser avec joie aux sources du salut, ou bien est-ce que toutes ces choses sont oubliées, affadies, à cause du temps, à cause des épreuves, à cause de tant d'autres choses? Nous avons perdu la valeur de notre Sauveur. Notre Sauveur. Celui qui nous a sauvés. Et celui qui nous sauve encore, comme nous le rappelions dans la prière, d'un salut qui est le salut dans la course, sans que nous bronchions. Il a le pouvoir de nous garder sans que nous bronchions, sans que nos pas glissent. Et terme de la course, couronnement de la miséricorde, de nous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Laquelle joie? Celle de qui? La nôtre? celle de Dieu, celle du Seigneur. Ce sera une joie commune, parfaite, entière. Elle n'appartiendra pas à quelqu'un en particulier. Ce sera la joie de la rencontre de cette cohorte dont nous faisons partie, craintive, chancelante, tel le peuple au travers du désert, mais conduit quand même, sans broncher jusqu'au terme. C'est une expression, nous n'allons pas allonger, mais qui se trouve dans le prophète Ésaïe à propos du peuple. Sans que nous branchions. Une abondance de joie. Dieu ne fait jamais des choses à moitié. C'est un Dieu riche, riche en miséricorde. Il nous a comblés. Et nous lisons dans l'évangile de Jean au premier chapitre, voilà la troisième expression sur laquelle je désire insister comme introduction. La première, c'est la plus belle robe, nous l'avons compris. La deuxième, au premier chapitre de l'évangile de Jean, lisons à partir du verset 14, la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié disant, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Pour mieux comprendre le fil de la pensée contenu dans cette phrase, qui commence avec le verset 14 et se termine à la fin du verset 16, nous allons relire en mettant sous silence ce qui est entre parenthèses et entre tirés. Et cela donne, la parole devint chair et habita au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. De sa plénitude, nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce. La parole devenue chair, pleine de grâce et de vérité, de sa plénitude, nous avons reçu, et grâce sur grâce. Vous voyez le tas que ça fait ? On chante dans un cantique 69, ta vérité s'élève jusqu'aux cieux. On ne rappelle plus. Mais nous comprenons ce tas immense que constitue cet amoncellement de grâce que nous avons reçu. Et c'est cela qui constitue cette plus belle robe dont je suis, dont vous êtes vêtus en Christ devant Dieu. Et le premier pan de cette robe, nous allons y revenir dans un instant, c'est au début de ce chapitre premier de l'évangile de Jean. Mais je voudrais ajouter un troisième passage en introduction. Dans le premier chapitre de la première épître aux Thessaloniciens, on peut lire à partir du verset 2. Nous rendons toujours grâces à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père, sachant, frères aimés de Dieu, votre élection. Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Une grande plénitude d'assurance. Est-ce que nous avons cette plénitude d'assurance ? Est-ce que nous savons la conserver, rester ferme quant aux choses que nous avons reçues, par grâce ? Ou bien alors, est-ce que, à force d'humiliation, à force d'autoflagellation, nous avons perdu quelque chose. À force de regarder nous-mêmes, combien de manquements ont caractérisé notre marche individuelle ou collective, est-ce que nous n'arriverions pas, dans une certaine mesure, à douter de la perfection de notre position en Christ ? Alors en cela, on peut dire que Satan aura réussi quelque chose et à nous circonvenir. Car il sait très bien se servir de nos circonstances et de ce que nous ressentons pour arriver à ébranler les enfants de Dieu, à leur faire douter de beaucoup de choses, jusqu'à perdre cette joie en un sauveur parfait, comme on chante dans le Cantique 59, je crois, et à douter, perdre cette plénitude d'assurance. Je désirais de tout mon cœur qu'en sortant de ce local, après avoir entendu ce que la parole de Dieu nous présente, non pas moi, ça compte pas, mais ce que la parole de Dieu nous présente, c'est cela l'important, eh bien nous soyons plus fermes, plus heureux, plus tranquilles, que nous soyons en paix, ne craignant rien d'un Dieu qui n'est pas punitif, mais allant tranquillement, paisiblement, marchant dans la lumière, conduit dans la voie éternelle, jusqu'à, et y compris, au tribunal de Christ. Je m'empresse de dire, puisque je viens de citer cette expression, que ce n'est pas une menace, le tribunal de Christ. Il ne faut pas s'en servir comme d'une menace. Et ça existe. Vous allez voir, quand ce sera devant le tribunal de Christ, dit-on à un frère, tu vas voir, lui va voir. Moi non, tranquille, je ne voudrais rien. Mais, chers amis, je m'empresse de parler de ce tribunal de Christ, terme de cette voie éternelle. Sur le tribunal de Christ, qui est appelé ainsi parce que Christ y siège, sinon selon Romains 14, sauf erreur, c'est le tribunal de Dieu. Eh bien, Christ y siège, et qu'est-ce que me dit dans la première épître aux Corinthiens, au premier chapitre, Christ nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption. Alors sur le tribunal, c'est ma justice. Il se trouve que moi aussi, simple croyant, comparaissant devant ce tribunal, Dieu a fait Christ péché, afin que nous devinssions justice de Dieu en Christ. C'est le dernier verset du chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Chacun pourra le retrouver puisque je le cite de manière un peu approximative. Mais Christ a été fait péché pour que je devienne justice. Vous êtes, toi ma sœur, tu es, mon frère, justice de Dieu. Alors devant le tribunal, sur lequel siège celui qui m'a été fait justice de la part de Dieu, je suis moi, justice de Dieu en Christ. Y a-t-il un conflit entre ces deux justices, entre celui qui est sur le tribunal et moi-même? C'est pas possible. Il se fait pas possible. Et de plus, le premier verset du chapitre 8 de l'épître aux Romains me dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Voilà un élément de la plus belle robe. Voilà à quoi j'aime à me raccrocher, comme dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, le verset 16. Je crois que ce sont les deux piliers de la vie chrétienne. Jean 3, 16, c'est le point de départ. Romains 8, 1, c'est pour la poursuite de la course. Et puis Jude, c'est l'arrivée. Mais vous voyez, quand on sait que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, on peut être tout aussi assuré qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Alors ne nous servons pas du tribunal de Christ pour une menace. Comme une menace. La parole ne le fait pas. Pourquoi ajouterions-nous? Pourquoi frelaterions-nous ce que la parole nous déclare et que j'aime saisir à pleines mains, les mains de la foi? Dieu nous donne, et nous avons reçu, nous tous, de sa plénitude, de cette parole devenue chair, et grâce sur grâce, sans restriction ni condition. Notre esprit légaliste, une résurgence de la religion de Caïn, nous revient de temps en temps. Et nous aimons à transformer certaines déclarations de la parole en les assortissant de conditions. qui n'y sont pas dans le texte. C'est un scandale. C'est un mensonge. C'est une chose horrible de mettre les âmes sous le joug de conditions et de restrictions pour recevoir de sa plénitude et grâce sur grâce. Il nous semble, oui, pour le salut initial, on est très au clair là-dessus, c'est pas par les œuvres, c'est être sauvé par la foi, moyennant pas la grâce, moyennant la foi. Personne ne va revenir sur ce sujet, mais alors après, on se dit que quand même, oui, Dieu nous accorde telle et telle grâce et cette position, Christ, mais quand même, il faudrait bien que nous fassions quelque chose. Il faudrait que nous la méritions. C'est au tréfonds de notre être que cette pensée-là, et il faut s'en défendre de toutes ses forces. Parce que la grâce de Dieu, c'est l'enseignement du chapitre 15 de Luc, la grâce de Dieu nous donne tout, sans rien demander. Si nous voulons ajouter quelque chose, c'est que nous pensons peut-être que l'œuvre de Christ est insuffisante, et qu'il faut que j'y mette mon petit grain de sel, si j'ose dire, un petit quelque chose de moi, parce que je ne peux pas accepter. Et oui, bien sûr, on a toujours dit la grâce humilie, la grâce brise et humilie. Elle nous met entièrement de côté. Alors ça ne nous plaît pas trop, parce qu'on s'estime quelque chose, et on estime avoir à faire quelque chose ou à dire quelque chose. Vous voyez, je pense tout de suite à quelque chose que nous allons voir peut-être ensuite, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, quand il est dit, nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Et dans une lettre, j'ai lu, que nous sachions nous juger nous-mêmes. C'est pas à propos de ça, je fais une petite erreur, c'est pas à propos du passage de 2 Corinthiens 2, mais c'est à propos du passage de Jean 17, verset 10, quand le Seigneur dit « Je suis glorifié en eux ». Eh bien, dans cette lettre, il était dit que nous puissions nous juger nous-mêmes afin que le Seigneur soit glorifié en nous. Mais je m'insurge, quand je lis cela, je saute. C'est pas vrai, c'est pas dit comme ça. Ce n'est pas dit comme ça. C'est ajouté à la parole une pensée de justice par ses propres œuvres, alors que Dieu nous donne cette déclaration dans la bouche du Seigneur pour que nous la prenions pour sa pleine valeur, sans restriction ni condition. Et mon esprit légaliste me fait ajouter, mais il faudrait qu'on se juge soi-même pour que le Seigneur puisse être glorifié. On confond deux choses. D'une part, la perfection de notre position en Christ, qui nous est acquise de plein droit. Je parle de droit parce que je pense au début de l'évangile de Jean. Il aurait été le droit d'être enfant de Dieu. Donc cette position en Christ nous est acquise de plein droit. Et on confond cette position avec la mise en pratique. Alors, ce n'est pas parce que je viens de dire ces choses concernant ce qui nous est donné par grâce et par pure grâce que nous mettons de côté tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est mise en pratique de notre position en Christ. Nous sommes revêtus de la plus belle robe. Est-ce que, pour autant, nous allons nous conduire n'importe comment et faire ce qui est beau à nos yeux ? Nous sommes dans la joie et dans la liberté. Est-ce que nous allons faire ce qui plaît à nos yeux? Au contraire. Voyez, la grâce de Dieu est plus contraignante que la plus rigide des lois. On pense justement que parce qu'on est sous la grâce, on peut faire n'importe quoi. Se conduire n'importe comment. Dire n'importe quoi. Non, non. Je dois, mon Sauveur, d'être conséquent avec la position qu'il m'a acquise, parfaite, en lui, parce qu'elle lui a coûté beaucoup. Dieu donne gratuitement, parce que quelqu'un a payé un prix. Christ a payé un prix. Le prix de son sang, le prix de sa vie. Et ça, pour le croyant conséquent, fidèle, qui aime Dieu, il ne peut évacuer cette question-là. il se sent, non pas débiteur, c'est pas le vrai mot, mais il se sent contraint, à cause de la grâce dont il est l'objet, et à cause de l'amour de Dieu, à marcher d'une manière digne, digne de l'appel dont nous avons été appelés, digne de l'Évangile, tous ces dignes que nous trouvons dans les Épîtres. La grâce de Dieu est plus contraignante que la plus rigide des lois. Réfléchissons-y. Alors, nous avons dit que nous allions voir les différents éléments de la robe, de la plus belle robe. Eh bien, nous avons un des éléments de cette robe, un de ces pans de cette robe, et je dis quelquefois, ben, nous allons prendre les ciseaux d'une couturière pour couper droit dans la parole et trouver, ici et là, ces différents pans de cette plus belle robe. Eh bien, il y en a un, justement, au début de l'évangile de Jean, nous y avons fait allusion déjà, au premier chapitre, verset 11, « Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit d'être enfants de Dieu. » Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et dans son épître, dans sa première lettre, Jean peut rappeler au début du chapitre 3, « Voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » D'une part, c'est un droit, d'autre part, c'est un gage de l'amour du Père. Enfant de Dieu nous est accordé en vertu d'un droit et comme gage de l'amour du Père. C'est un élément de la plus belle robe, à coup sûr. Être enfant de Dieu. Jean, dans sa première lettre, est très clair, il n'y a que deux sortes d'enfants, les enfants de Dieu, les enfants du Père et les enfants du diable. Le Seigneur sait si dans cette salle, il y a quelqu'un qui est encore un enfant du diable, ben qu'il ait l'oreille bien ouverte en ce moment, parce que ça le concerne. C'est sérieux d'être un soir comme ça dans un local de réunion à 9h-20 et d'entendre cet appel. Si Dieu vous fait entendre cet appel, c'est qu'il vous aime. Si vous aimez pas, il vous aurait laissé dans un lieu quelconque de cette ville de Valence, ben il se trouve que vous êtes là. Pour entendre ça, enfant du diable ou enfant de Dieu. Il n'y a pas 36 catégories. Et un appel vous est fait encore à cause de l'amour et de la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ. À cause de son œuvre accomplie à la croix. Parce qu'il est venu dans la mort. Il est venu dans le monde, il est venu chez les siens. Les siens, son peuple, ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire à tous ceux qui ont accepté, à tous ceux qui ont cru dans cette personne et dans son œuvre, il leur est donné, il est accordé à cela. À vous, chère âme, qui vous trouvez ici peut-être encore loin de Dieu et enfant du diable, c'est quand même quelque chose d'être enfant du diable. Eh bien, peut-être qu'encore cet appel vous est fait pour que vous tourniez vers le Seigneur Jésus et que vous le receviez. C'est tout simple. C'est trop simple. Je sais, on me l'a dit, on vous l'a dit aussi, c'est trop simple. Oh ben si c'est comme ça qu'on est sauvé, non. Non, j'en veux pas, c'est trop facile. C'est trop facile. Mais c'est trop facile. C'est une expression que l'on entend. Eh bien, à tous ceux qui l'ont reçu, tout simplement. Comme un petit enfant. Non pas comme un sage ou un intelligent, quelqu'un qui peut regarder les choses à la loupe, dans tous les livres, dans toutes les religions, dans je ne sais quoi. Eh bien, il aura été donné le droit d'être enfant de Dieu. Alors nécessairement, parce qu'on est enfant de Dieu et qu'auparavant on est né, comme Jean nous le rappelle, de sang, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, eh bien, on comprend très bien qu'il faut une nouvelle naissance pour passer dans cette nouvelle condition d'enfant de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur développe à Nicodème, notamment dans le chapitre 3 de cet évangile. Il vous faut être né de nouveau. Et nous trouvons encore là un pan de la plus belle robe. Car il est dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Enfant de Dieu, premier pan. Deuxième pan, ne plus périr. Troisièmement, avoir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas, comme on le pense quelquefois, comme on répondrait naïvement, une vie qui ne se finit pas. Le Seigneur Jésus a trouvé bon de définir la vie éternelle dans ce même évangile, au chapitre 17. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous entrons avec le chapitre 17 de Jean dans une sphère merveilleuse, la sphère de la vie éternelle, faite de relations, d'union, d'unité et de communion, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Voilà la communion avec le Père au sujet du Fils, l'amour dont tu m'as aimé, dit le Seigneur, soit en nous. Voilà la communion avec le Père au sujet du Fils, et moi en eux, voilà la communion avec son Fils au sujet du Père. C'est cela la base de notre communion les uns avec les autres. Ce n'est pas parce que nous avons une même pensée, une même manière de faire, un même langage. C'est parce que nous avons une même part dans le Père, avec le Père, et une même part avec Christ. Ça change tout. Ça devrait tout changer, nos manières de faire, nos manières même de nous réunir. On pense qu'on est groupe de croyants qui avons, je dis, les mêmes sentiments, le même point de vue sur beaucoup de choses. Et alors, évidemment, dans ce contexte-là, quand quelqu'un a un point de vue différent, ben, il ne fait pas partie du groupe. Mais la base de notre communion, c'est la part que nous avons en commun, la même part que nous avons en commun. Mais il y avait un frère qui était mon père, qui répétait souvent cette expression que je ne comprenais pas bien à l'époque. Je ne comprenais pas bien pourquoi il répétait toujours ça. La communion, pourquoi définir la communion? Il semble que ça nous saute aux yeux, ce qu'est la communion. Ben, il prenait du temps pour dire toujours, la communion, c'est la même part que nous avons en commun avec. Et oui. La communion, c'est ça. Nous avons une même part en commun avec le Père, une même part en commun avec le Fils. Nous avons une même part en commun dans la robe dont nous sommes vêtus. Nous avons une même part en commun avec le corps de Christ, avec le sang de Christ. 1 Corinthiens 10. Voilà la part en commun qui fait que nous pouvons avoir une communion les uns avec les autres. Je sors du sujet, je sais bien, mais j'ai profité de ce que nous parlions de communion pour rappeler ces choses qui sont de tant de valeur pour notre vie ensemble. Donc, deuxième pan de la robe, ce que nous avons dans l'évangile de Jean au chapitre 3, que nous avons rappelé. Et puis, nous ne pouvons pas voir tous les éléments de cette belle robe, mais nous pensons à la justification. Dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, nous lisons, à la fin du verset 22, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, afin de montrer sa justice à cause du support des péchés précédents dans la patience de Dieu, afin de montrer, sa justice dans le temps présent, en sorte qu'il soit juste et justifiant celui qui est de la foi de Jésus. Et en tournant la page au verset 28, nous lisons, nous concluons que l'homme est justifié par la foi. Et le même apôtre écrit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3 également, verset 8, Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Notre justice n'est pas faite de nos mérites et de nos bonnes actions. C'est difficile pour un homme de reconnaître cela. La première difficulté, c'est de reconnaître ce que nous avons lu tout d'abord dans Romains chapitre 3. Il n'y a pas un juste, non pas même un seul, aucun qui atteigne à la gloire de Dieu. Il y a quelque temps, je recevais à la maison deux reporters de la télévision. Et ils avaient fait le Rwanda, ils avaient fait Sarajevo, Beyrouth, tous ces territoires de la terre qui ont été enflammés par des carnages, des guerres, des violences. Et Ces gens-là me parlaient de la confession des péchés, et j'étais bien d'accord pour reconnaître qu'ils pouvaient bien reconnaître, ils pouvaient bien confesser des péchés, ce qu'ils avaient commis, ils en avaient conscience. Et ça, c'est une attitude que l'on retrouve bien souvent parmi les gens que l'on rencontre dans ce monde. Mais alors, reconnaître qu'ils étaient par nature et foncièrement pécheurs, alors là, ils m'ont dit, oui, bien sûr, d'après ce que vous m'avez dit, on comprend, oui, mais c'est dur, hein. C'est dur parce qu'il en va de, notre orgueil. Ils avaient trouvé tout de suite d'eux-mêmes là où le bât blessait leur homme naturel, l'orgueil. Reconnaître devant Dieu que tout ce qu'ils avaient vu au travers du monde, ils en étaient eux aussi capables. Ah, ben, ils ont entendu ce qu'ils avaient à entendre, ils en feront ce que la grâce de Dieu voudra en faire. Et de toute façon, j'avais recueilli ce renseignement que nous connaissons bien, ce n'est pas une nouveauté, mais que c'était terriblement difficile pour un homme, travailleur, honnête, de reconnaître qu'il était pécheur devant Dieu. C'est quelque chose de courant, de rencontrer des personnes, surtout âgées, qui n'ont pas volé, qui n'ont pas tué, qui ont mené une existence de travailleur jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. Et puis, on leur dit, de but en blanc, vous valez rien. Tout ça devant Dieu, c'est zéro. Il faut autre chose. Il faut reconnaître devant Dieu que vous êtes pécheur. Et la bonté de Dieu, la patience de Dieu, nous pousse à la repentance. Alors nous prions pour ces âmes, pour cette âme qui est peut-être ici, qui entend, qui en prend plein les oreilles. Eh bien, nous prions pour elle, pour qu'elle se reconnaisse pécheur devant Dieu, ce soir. Elle trouvera un Dieu propice. Propice, c'est-à-dire favorable. Un Dieu qui, pour employer une expression encore plus familière, un Dieu qui n'est pas fâché. Je dis cela parce qu'il y a un mot qui a peut-être arrêté certains dans notre lecture de Romains 3, c'est propitiatoire. Qu'est-ce que c'est propitiatoire? L'œuvre de Christ pour la propitiation. Qu'est-ce que c'est que ce terme? On ne l'emploie pas tous les jours, hein, bien sûr. Alors, Dieu a réglé la question du péché par son sacrifice accompli à la croix. Son sang a été versé. Dieu a été satisfait. La question du péché est réglée. Et maintenant, le pécheur qui se repent, vous qui écoutez là ce soir, celui auquel je parle, il se tourne vers Dieu, oui, je suis pécheur, c'est vrai. Je viens de lire ça, je viens d'entendre cela. Et il trouve un Dieu favorable. Un Dieu qui est prêt à vous accueillir. Tel ce Père admirable du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Il ouvre ses bras. Son fils vient à lui, repentant, attristé, affligé. Mais ce fils va trouver ce qu'il n'avait jamais connu. Il savait les richesses de la maison de son père. Il en avait pris une partie. Il était allé dans un pays éloigné, il avait tout dilapidé. Mais il ne connaissait pas encore l'amour qui était dans le cœur de son père. Et peut-être que cette âme à laquelle je continue à m'adresser ce soir ne connaît pas les trésors d'amour et de grâce qui se trouvent dans le cœur du Père qui vous attend. Comme le père de l'enfant cadet qui revient, ce père était là, il est sorti à sa rencontre. Et ce soir, cher âme, ce Dieu tendre et bon attend que vous tourniez vers lui pour vous repentir. Mais vous ne serez pas déçus. Vous n'allez pas trouver un Dieu punitif, vous allez trouver un Dieu qui a été satisfait par l'œuvre de son Fils. Et par la foi dans le sang de Christ, vous allez être justifié. Vous allez être paré de la plus belle robe. Nous revenons au sujet, nous revenons au passage introductif du chapitre 15 de l'évangile de Luc. Vous allez pouvoir paraître devant Dieu. Et alors après, c'est la joie. On tue le veau gras, on fait bonne chère. Ah, il y a un frère aîné qui est un peu ronchon, excusez-moi le mot, mais il n'est pas bien content de voir que cette joie se déroule dans cette maison. Il n'en a pas été prévenu, elle ne le concerne pas, et bien sûr qu'elle ne le concerne pas. Il pensait faire, lui, sa propre justice, pouvoir paraître devant Dieu avec tout ce qu'il avait fait. Et ce n'est pas ce qui s'est trouvé dans cette maison, il s'est trouvé un fils repentant et s'est trouvé un père admirable. Et il y a de la joie. Et il y a de la liberté. C'en est fini pour le fils cadet de tous ses tourments, de sa repentance, de ce qu'il a exprimé dans ce pays éloigné. C'en est fini. Il y a la joie, il y a les danses, il y a les chants. La maison est remplie de joie et on est là à l'aise, en liberté. Est-ce que ça ne serait pas la part de chacun qui est ici ce soir? Éprouver dans la présence de Dieu la joie et la liberté. Ça concerne quelqu'un qui n'est pas encore converti, qui n'est pas encore un enfant de Dieu, mais ça nous concerne avant tous. Avant tout, ça nous concerne, nous, croyants, enfants de Dieu, qui avons peut-être perdu la saveur des choses, la valeur de notre position parfaite en Christ, qui encore mélangeons ce que nous avons à faire, non pas tant comme une application pratique de notre position, mais comme un désir refoulé d'ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ pour pouvoir être paré d'un pan de la robe. Et c'est pour ça que nous sommes tristes. Parce que nous sommes occupés de nous-mêmes, nous sommes occupés de ce qu'il faut faire, de ce que nous avons pas fait, de ce que nous avons dit, de ce que nous n'avons pas dit. Et alors nous avançons d'un pas traînant, en nous disant là-bas, oui, il y a un tribunal de Christ en plus. Qu'est-ce qui m'attend ? Je crois que nous avons réglé la question, que nous avons exposé la chose de manière que tout le monde ici est au clair et tranquille et peut aller d'un pas ferme pour continuer la course. Justifié, paré de la plus belle robe, pardonné, je ne fais que citer pour mémoire dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, dans l'épître aux Colossiens au chapitre 3 je crois, nous avons été pardonnés, et aussi dans le chapitre 3, Christ nous a pardonnés, il nous a pardonné toutes nos fautes, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes lavés de nos péchés dans son sang, chapitre 1er de l'Apocalypse, et puis chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. C'est par cette volonté, la volonté que Christ est venu accomplir, voici je viens au Dieu pour faire de ça ta volonté, c'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés. Et c'est par l'offrande du corps de Jésus qu'il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés, rendus parfaits, justifiés, pardonnés, lavés, enfants de Dieu, que faut-il de plus ? Voilà la plus belle robe. Voilà qui nous permet de paraître devant Dieu dans la joie, dans la liberté, mais surtout, bien chers frères et sœurs, dans la paix. Dans la paix. Nous pouvons nous réjouir dans un Sauveur parfait. C'est un adjectif qui prend toute sa valeur si nous le mettons en... si nous le rapprochons de tout ce que nous venons d'exposer partiellement, parce que on pourra trouver d'autres éléments de la robe. C'est pas une liste exhaustive que j'ai faite ce soir. Mais ce Sauveur parfait a vraiment tout fait pour que notre position devant Dieu, en lui, soit bien assurée, et que la plus belle robe soit vraiment la plus belle, la plus prééminente, la plus glorieuse. À cela, je voudrais ajouter deux ou trois passages encore qui ne font pas partie de la doctrine exposée dans les Épîtres, mais dans les Évangiles, l'Évangile de Jean. Et il faut aussi parler de ce verset auquel je faisais allusion tout à l'heure par erreur, dans la deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 2, verset 15. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, sans restriction ni condition. On a ajouté bien des choses à ce verset. De bonnes dansées, parce que, en fait, elles nous conduisaient à stimuler notre responsabilité, c'est vrai. Il ne faut pas l'écarter, notre responsabilité, quant à l'application pratique de notre position en Christ, oui. Mais à l'état brut, pour ce qui concerne cette position en Christ, n'ajoutons rien. Prenons cela à pleine main, les mains de la foi. sans restriction ni condition. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Et en tournant la page, au chapitre 3, verset 3, vous êtes manifesté comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair du cœur. A-t-on assez parlé de brouillon et de gribouillis à propos de cette lettre? Mais est-ce que ça ne serait pas, dans une certaine mesure, faire injure à la grâce de Dieu et à la puissance de l'Esprit Saint, qui a pris, d'une certaine manière, employé en langage humain, la peine d'écrire cette lettre? Est-ce que ça nous revient, la netteté de l'écriture? Est-ce que ça dépend de nous? Vous voyez que la religion de Caïn revient là. Vous voyez que la justification par les œuvres, elle pointe son nez, toujours, et de trop, pour nous attrister, pour affadir la joie et la liberté qui devait être la nôtre, parfaite, en Christ, devant Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. N'ajoutons rien, n'enlevons rien. Nous sommes la lettre de Christ. Vous êtes manifesté comme étant la lettre de Christ dressée par notre ministère. Non, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit de Dieu vivant. Alors, c'est bien vrai que du point de vue de la responsabilité, de l'application pratique de cette position, nous manquons, c'est sûr. C'est sûr. Mais, en position, cette vérité, elle est inébranlable, inaltérable. Et personne, ni Satan, ni le monde, ne peut enlever quoi que ce soit à cette lettre et à cette bonne odeur. L'Éternel peut dire, par la bouche d'Ézéchiel, dans le chapitre 20 de ce livre, à propos du peuple d'Israël, « J'ai pris plaisir en vous comme en un parfum agréable. » J'aime lire cela. Et je désirais que chacun de nous aime lire cela et s'en pénétrer pour être affermi. Si nous sommes affermis, nous serons consolés. Nous retrouvons Néhémie 8. Ne vous affligez pas plus qu'il ne faut. La joie de l'Éternel est votre force. Qu'est-ce que nous présentons par ces passages? Christ. Les conséquences de l'œuvre de Christ. La plus belle robe. Nous développons la position du croyant en Christ. La position chrétienne, ou une petite parenthèse à ce sujet très brève, elle est illustrée par le chapitre 15 de Luc et cette expression que nous avons soulignée, amener dehors la plus belle robe et l'enrevêter. Voilà la position chrétienne illustrée par cette plus belle robe. La position chrétienne en Christ devant Dieu, elle est condensée dans la première épître aux chrétiens, au premier chapitre. Vous êtes de Dieu dans le Christ Jésus. C'est tout. Alors elle est développée d'une manière doctrinale dans le chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens. Nous aurions pu parler, mais nous connaissons bien ces choses dans l'épître aux Éphésiens, rendu agréable dans le bien-aimé au premier chapitre. Il nous a élus en lui avant la fondation du monde. Il nous a rendu agréable dans le bien-aimé, verset 6. Et puis au chapitre 2, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ, vous êtes sauvés par la grâce, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montra dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce. Dans l'épître aux Éphésiens, c'est la position chrétienne, en Christ, devant Dieu, dans les lieux célestes. On peut chanter avec le cantique qu'il a fixé, tu as fixé mon lot dans un bel héritage. Nous avons une part, un privilège extraordinaire dans les lieux célestes en Christ. Encore deux passages dans l'évangile de Jean. Tout d'abord, au chapitre 17 et au verset 10. Nous avons fait allusion tout à l'heure à ce verset. On peut rappeler quelques expressions qui sont au début de ce paragraphe, qui commencent avec le verset 6. À la fin du verset 6, ils ont gardé ta parole. ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti d'auprès de toi. Ils ont cru que toi tu m'as envoyé. Et puis voilà, à la fin du verset 10, tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Quelle superbe expression! Quelle preuve de la grâce immense de Dieu! Aujourd'hui, dans ce local, le Seigneur est glorifié en nous, dans chacun des croyants et des croyantes qui s'y trouvent. Quelle que soit notre marche, quels que soient nos manquements, le Seigneur les connaît. Il a fait sien ces manquements de ses disciples qui se trouvent dans les chapitres précédents, ceux de Thomas, ceux de Philippe, ceux de Pierre. Et il n'est pas là devant le Père, dans cette prière sacerdotale du chapitre 17, pour les rapporter, pour dire à son Père en quelque sorte, tu vois, il y a un tel qui a dit cela, et il y a l'autre qui a dit cela. Ce n'est pas cela le ministère du Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur. Tout cela, il l'a entendu et il le porte. Il en fait son affaire. Et il peut dire, je suis glorifié en eux. Une explication nous est donnée de cette expression, être glorifié en quelqu'un ou dans quelque chose, qui se trouve dans le livre du prophète Agée, au premier chapitre. Il s'agit de la construction de la maison de l'Éternel. Et par la bouche de son messager, l'Éternel peut dire, à propos de cette construction, j'y prendrai plaisir et je serai glorifié. Dieu, le Seigneur, est glorifié dans ce en quoi il prend plaisir. En Christ lui-même et dans tout ce qui s'y rattache. Et le Seigneur prend plaisir dans ses bien-aimés. Parce que dans ce chapitre 17, comme aussi depuis le chapitre 13, peut-on dire, il se place au-delà de la croix. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et il voit ses disciples, il voit tous ses rachetés, comme les résultats de son œuvre, les fruits du travail de son âme, ceux qu'il a achetés au prix de son sang précieux, ceux dont il a obtenu la rédemption à cause de cette œuvre, et il peut prendre plaisir en eux, en nous, et il est glorifié en eux. Oh, je sais bien que si on disait cela dans certaines circonstances, vous en avez beaucoup qui pousseraient les hauts cris. Le Seigneur est glorifié? Oui, je le dis et je maintiens, parce que ce n'est pas un frère qui l'a dit, c'est la parole, et c'est le Seigneur même qui le dit, je suis glorifié en eux. Est-ce que ce n'est pas rassurant, consolant? Étant bien entendu que le Seigneur ne dit pas cela pour flatter ses disciples, parce qu'il use d'indulgence, il parle vrai. Et la vérité et son amour conduisent à dire « je suis glorifié en eux ». C'est aussi un élément de la plus belle robe. J'en suis content. Et je peux, moi, rajouter du Seigneur qui entend cette parole apaisante, me glorifier dans le Seigneur, me réjouir en lui, goûter devant Dieu la joie et la liberté que m'octroie son œuvre, son amour et sa grâce. Je suis glorifié en eux. Encore un dernier mot, toujours dans cet évangile de Jean, un peu avant, au chapitre 16, au verset 26, le Père lui-même vous aime. Ah, on connaît bien cette parole. Elle est gravée sur beaucoup de murs de maisons chrétiennes. Le Père lui-même vous aime. C'est une parole qui a encouragé beaucoup de croyants, pères de famille, mères de famille, des enfants. Le Père lui-même vous aime. Quand on est dans la détresse, dans la fatigue, dans la misère, le Père lui-même vous aime. Mais alors, ce qu'on ne sait pas du tout, je peux vous le dire parce que j'ai fait des sondages et auprès de frères qui connaissent bien la parole. Je ne dis pas les noms parce que vous seriez étonnés. La suite. Pourquoi le Père lui-même nous aime? Pourquoi? Regardez pas la Bible, vous allez voir la suite. le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Vous entendez ça? Le Seigneur qui nous dit, vous m'avez aimé. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas une preuve infinie, immense, glorieuse, merveilleuse de la grâce de Dieu, opérant dans un cœur, dans une âme, que le Seigneur sent pour sa joie et pour sa gloire? Voyez, c'est un jeune homme qui est devant une jeune fille qu'il aime, qui va être sa fiancée, qu'il est peut-être déjà. Et ce jeune homme dit à cette jeune fille, je t'aime. Mais il lui ajoute, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. C'est un dialogue, en quelque sorte, dans l'amour, entre le Seigneur et ses disciples, comme entre ce jeune homme et cette jeune fille. Je sais que tu m'aimes. Et le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Est-ce que nous serions craintifs, moroses, attristés? Est-ce que nous avons perdu, est-ce que nous perdons quelque chose de notre plénitude d'assurance? Non. Allons en paix, chers amis. Marchons d'un pas tranquille et ferme. Appuyez sur ce que la grâce de Dieu nous a donné, de sa grâce, de sa plénitude. Nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce.